Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Merci. Merci.
Je crois que c'est le premier témoignage de Célia qui vous a donné envie d'appeler.
Oui.
Oui,
exactement.
C'est ça qui était un peu, enfin, qui s'occupait beaucoup de sa maman, qui, bon, est âgée, a développé un peu un délire de persécution.
Oui.
Et Célia se sent bien seule parce qu'elle a des frères, mais tout repose sur elle.
Oui. Et oui, ça m'a fait réagir parce que je trouve que malheureusement, c'est très souvent le cas. Voilà. Que quand on accompagne un parent malade, on est très seul.
Oui.
Même quand on a des frères et sœurs, en l'occurrence ce n'est pas mon cas, moi je suis fille unique, donc de toute façon la question de savoir qui allait s'occuper de ma mère ne se posait pas, c'était forcément moi, mais j'ai été quand même surprise, faut croire qu'on est naïf, par le nombre de liens que ça a fait sauter, quoi, à commencer par mon mari, qui ne m'a pas du tout soutenue. Pendant cette période, elle a quand même été malade 2 ans.
Oui.
D'une maladie qu'on savait incurable, donc ça ne risquait pas de s'arranger. Et il s'est montré, enfin ça m'a révélé une facette de lui, très égoïste, très auto-centré, qui ne comprenait même pas pourquoi je m'occupais autant d'elle.
Ah bon?
D'ailleurs. Oui ou non, il m'a dit, bah écoute, elle a 83 ans. Voilà.
Oui, c'est cynique.
Oui,
c'est... Enfin, comme
pardon,
s'il y avait une limite d'âge.
Pas drôle du tout. Oui, c'est un peu ça.
C'est votre mère et enfin, on se doit de prendre soin et d'accompagner. Non, et puis en plus, vous me dites, enfin, on va avoir le temps un peu de développer après les infos, Hélène, mais vous me dites en plus. Bien sûr que ça interfère dans la relation de couple quand on doit s'occuper d'un parent. Enfin, ça bouscule beaucoup de choses dans l'existence. Mais en plus, vous me dites, ça a duré 2 ans. Enfin, 2 ans. Plus, alors, on ne sait jamais au départ, mais franchement, on peut aussi un peu prendre sur soi et se dire, voilà, ça durera un temps et enfin. Il est important d'être là.
Oui, parce qu'en plus, c'est une maladie dont on peut prévoir... l'espérance de vie est connue.
Ouais,
on sait
plus,
que ça va durer entre 3 et 6 ans.
Donc, elle n'est plus là, votre maman, aujourd'hui.
Non, elle est morte.
Hélène, on va continuer à se parler. Hein. Ce sera après les infos de minuit. Donc, vous ne raccrochez pas. Restez bien avec nous. À tout de suite. Merci d'avoir patienté.
Oui.
Oui, alors vous dites, vous êtes fille unique, donc vous, il n'y avait pas... c'est vrai que souvent, ça repose sur un enfant. Bon, vous saviez que la prise en charge de votre maman, eh bien, c'est vous qui alliez vous en occuper.
Oui,
mais il y a beaucoup de liens qui se sont délités. Et en premier lieu, le lien conjugal. Vous dites que votre
absolument.
Mari...
Alors, moi, je précise que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à Célia, c'est que j'avais de très bonnes relations avec ma mère.
Oui.
Et pendant sa maladie, quand elle a compris qu'elle ne s'en sortirait pas, on a beaucoup parlé.
Oui.
Et parlé notamment de l'issue fatale de cette maladie. Et j'étais même étonnée de sa lucidité, de son courage et de notre naturel. À parler de tout ça. Voilà, et j'estime que c'est une grande chance que j'ai eue.
Oui.
C'est comme une espèce de cadeau qu'elle m'a fait.
Oui.
Alors, elle l'a fait au prix de sa souffrance, hein, parce qu'elle a quand même beaucoup souffert pendant ces 2 années. Oui. Ben oui, elle a souffert, oui.
Mais elle est restée lucide, c'est ça elle
Absolument. Oui, vraiment, quasiment jusqu'à la dernière semaine. Où il a fallu beaucoup sédater parce que sinon elle était très angoissée, voilà.
Oui.
Mais sinon, jusqu'à la dernière semaine, elle était encore tout à fait lucide. C'était pas une maladie dégénérative, enfin, c'était autre chose. Et donc ça, je trouve que vraiment, par rapport à des enfants adultes ou pas, qui voient leurs parents mourir d'une mort brusque, très brutale, c'est une grande chance.
Je suis d'accord avec vous parlez de cadeaux, mais oui, parce que c'est rare de pouvoir finalement en parler. J'allais dire avec sérénité, c'est toujours compliqué. Mais ça me fait penser actuellement à Axel Kahn qui est atteint d'une maladie incurable, qui a publié des textes très émouvants sur... Il sait que bon, le cancer est là, qu'il est incurable, et sur ce qu'il veut continuer à préserver avec ses enfants, petits-enfants, leur transmettre, où il parle de sa mort qui s'approche, et où... Enfin, j'étais comme beaucoup de Français, j'imagine, très impressionnée par par la façon dont il en parle. Par c'est rare finalement. Oui, et je me dis que pour ses enfants, c'est même si c'est des moments très durs, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se dire et se transmettre finalement aussi de ce moment-là.
Oui, et c'est un exemple.
Enfin, oui, c'est une leçon de vie, y compris dans les dernier moment de la vie.
C'est ça, quand il dit que c'est la période la plus intense de son existence. Oui, une des périodes les plus intenses. Oui. Alors bon, ma mère, elle n'avait pas cette philosophie. Hein. Elle était très triste à l'idée de mourir. Parce que, elle, sa pensée principale, c'était de se dire qu'elle ne nous verrait plus, mes enfants et moi. Donc ça, c'était très dur pour elle. Sinon, encore une fois, je répète, hein, je trouve que c'est une grande chance quand on peut accompagner ses parents et qui ne sont pas en trop mauvais état et qui peuvent parler.
Se parler choses aussi essentielles, aussi intimes. Enfin, il y a beaucoup d'amour au fond dans tout ça aussi.
Ah oui, énormément. C'est pour ça qu'on est choqué aussi. Enfin, moi, je l'ai été par l'attitude de l'entourage. Enfin, quand je dis l'entourage, ça peut être en effet au sein du couple, où on se dit mais enfin, j'ai un étranger à côté de moi. On se connaît pas.
Ça a dû être très violent pour vous.
C'était très violent, d'autant que j'ai bien compris qu'il était en rivalité avec elle. Alors qu'elle était mourante et que lui, il était bien vivant. Mais il trouvait que j'étais trop mobilisée.
C'est incroyable, d'être auto-centrée à ce point-là.
Oui, très auto-centrée. Oui. Oui. Par exemple, quand j'ai dit que je n'allais pas pouvoir partir en vacances, sa première réaction, ça a été de dire « Ah ben alors, je vais partir tout seul. » Bon, je me suis dit « Mais enfin... » Bon, enfin, voilà. Et alors, évidemment, non seulement il y a eu ça, mais au travail, mais ça, on s'y attend davantage. Au début, tout le monde est très compréhensif. La hiérarchie est très compréhensive. En plus, il se trouve que pendant la maladie de ma mère, j'ai eu une promotion, ce qui était plutôt un gage, justement, de compréhension. Puis, on m'a dit, mais tu t'organises comme tu veux. Et moi, j'ai pris ça à la lettre, sauf que je me suis rendu compte que très vite, on m'a dit « mais tu n'étais pas là tel jour ». J'ai dit « oui, j'ai prévenu. J'ai prévenu que je serai à l'hôpital avec un dossier, mais à l'hôpital, ah oui, mais il va falloir prendre un jour de congé. » Enfin, qu'on me tienne un discours cohérent dans ce cas. Et à tel point que la tension est montée. Et un an après le décès de ma mère... j'ai demandé à partir et j'ai quitté ce boulot parce que c'était devenu intenable.
Et qu'est-ce qui est intenable, c'est le décalage au fond que vous avez vécu entre le discours qui vous a été tenu et les actes où au fond il y a eu aucune compréhension.
J'aurais préféré qu'on me dise d'abord qu'on ne me donne pas cette promotion, qu'on me dise c'est pas le moment. Tu es mobilisée ailleurs, on ne peut pas te donner des responsabilités, que je n'avais pas demandé d'ailleurs, et qu'on me dise, on comprend bien que tu accompagnes ta mère mourante, mais voilà, nous on attend quand même que tu sois là à 100%. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses ont été dites. Hein. Donc ça, c'était vraiment... Et le pire, ça a été la réaction de ma fille. Alors là, ça a été véritable... maintenant elle a 22 ans, mais donc ça fait un peu plus de 5 ans que sa grand-mère est morte. Et alors c'est le moment, on était très complices toutes les deux, depuis toujours, vraiment. On avait de très très bonnes relations, elle était absolument délicieuse. Et à partir de là, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait compris que ça mettait en cause la relation conjugale, qu'elle y laissait sa grand-mère, que moi, évidemment, elle me voyait très chagrinée, très déstabilisée, oui. etc. Oui. Mais alors, elle est devenue très difficile à vivre, très difficile oui. à vivre, hein. À tel point que j'ai finalement accepté qu'elle parte en colocation juste après le bac, parce D'accord. que je ne tenais plus le coup.
Oui, et tellement elle était dure avec vous au quotidien.
Je la trouvais très dure, oui. Et puis,
vous étiez séparée de son père déjà?
Alors de toute façon, oui, parce que mon mari en question, là, c'était son beau-père à ma fille, c'était D'accord. pas son père.
D'accord.
Mais elle était attachée à lui, voilà. Elle oui. l'aimait bien.
Oui, donc votre, ça faisait vous, comme vous dites, sans peut-être que de son côté à elle, à 17 ans, il y a votre couple qui a explosé. Oui. Elle perdait sa grand-mère aussi, qui oui. était certainement attachée. Et puis vous, vous étiez différente parce que forcément oui. entièrement tournée au fond vers votre mère oui. et dans c'est le vrai. Chagrin oui. aussi. Donc elle, oui. elle, du haut de ses 17 ans. Et c'est plus normal d'être auto-centrée à cet âge-là. Elle perdait beaucoup au fond. Peut-être qu'elle était angoissée, peut-être aussi.
Qu'il a et rendu. Oui, mais alors là, le truc, c'est que c'est toujours pas fini.
Ah.
Et mais non, elle.
C'est-à-dire elle, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ?
C'est-à-dire que elle veut quasiment pas me voir ni me parler.
Ah bon ?
Ben oui. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et donc, moi, en fait, quand j'ai oui. accepté qu'elle parte en colocation malgré son jeune âge, oui. au début, j'étais pas trop d'accord. Et puis bon, avec son père, on a discuté. Et puis c'était mm-hmm. tellement dur à la maison que j'ai dit oui. Et je pensais que ça allait apaiser justement oui, les tensions. Pu. Et pas du tout. Pas du tout. Et ça ne s'arrange pas.
Mais elle vous fait des reproches elle...
Alors... Bon, le principal reproche, ça a été de me dire qu'en me séparant de son beau-père, j'avais ruiné ses espoirs de famille, c'est son expression, parce que son beau-père avait une fille de son âge, à peu près de l'âge de la mienne.
Avec qui elle s'entendait bien ?
Avec qui elle s'entendait bien, oui. oui. Et oui. Voilà, elle m'a dit ça
elle
m'a
fait mal. Elle ne se voit plus
Alors si, je crois qu'elle continue à se voir D'accord. un peu. Ouais. Si, si. Qu'elle continue à voir.
Oui, ça, ouais. a été douloureux pour elle, oui. cette rupture avec son beau-père, qu'elle aimait beaucoup, oui. avec cette jeune fille qui avait son âge oui. et qu'elle, qui était comme un peu une sœur, qu'elle s'était trouvée
voilà,
de cœur.
Voilà, exactement, oui. Surtout qu'à oui. côté de ça, elle n'a que des frères. elle a, oui. elle a oui. deux grands frères et oui. un petit frère. Hein. Donc, je pense qu'elle était contente d'avoir oui. une petite... Enfin, oui, un genre de petite sœur, quoi. Voilà.
Oui. Oui, donc elle vous en tient encore aujourd'hui pour responsable. C'est-à-dire
Alors, elle dit « moins ». Elle me dit moi, que ça ouais, lui est passé, ouais, mais ouais. il n'empêche que les relations ne se normalisent pas. Et
elle vous en veut encore.
Oui, elle m'en veut. Et du coup, on se dit des choses assez dures. Les rares fois où je dois la voir 3 fois par an, vous voyez, oui. Noël, son anniversaire, le mien, et puis voilà quoi. Et entre-temps, quand je téléphone, elle ne répond pas. Si j'envoie un texto, elle met 3, 4 jours, 5 jours à répondre. Ça a énormément modifié nos relations. Et,
elle est loin géographiquement ?
Mais pas du tout, elle est à 3 stations de métro.
Oh là là, oui, c'est
donc ça, c'est dur. Encore plus difficile. Oui, ouais. oui. Parce que franchement, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas.
Oui, elle ne vous donne pas la possibilité, au fond, de vous expliquer, enfin d'en parler, vous lui proposez de la voir en disant
oui,
c'est pas possible.
Oui, mais elle me dit qu'elle n'en a pas besoin et enfin elle ouais, va même plus loin.
Dure,
oui, elle est très dure ouais. et du coup moi je sors de mon rôle hein, parce que je suis blessée donc
et oui, elle vous
blesse, je suis aussi
oui.
dure qu'elle et c'est une véritable spirale. Et,
elle vous blesse aussi parce qu'elle est blessée et comme vous dites c'est une spirale parce qu'au fond. N'aurait-elle pas vécu un peu cette période-là comme si, à 17 ans, même si on revendique farouchement son indépendance, on a encore besoin de ses parents et de leur appui avant de s'envoler. Enfin, l'âge adulte paraît encore très loin, c'est une période où on est encore fragile. Et peut-être qu'elle a vécu tout ça un peu comme une forme d'abandon.
Mais c'est elle qui a demandé à aller oui. en coloc.
Oui, oui, c'est pas tant la coloc, mais peut-être que le fait, les fondations sur lesquelles elle s'appuyait ont éclaté.
Vous voyez, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Le couple que vous formiez, donc cette famille aussi recomposée avec cette jeune sœur. Et vous aussi qui étiez forcément moins disponible pour elle.
Oui, et puis très déstabilisée quand même et très fatiguée. Parce que.
Mais c'est-à-dire de maman, j'ai... vous étiez la fille là. Vous redeveniez la fille avant tout. La fille qui souffrait beaucoup de perdre sa mère.
Oui, parce qu'en plus ma mère c'était mon pilier au sens où mon père ne s'est pas occupé de moi. J'avais pas de famille à part ma mère, et donc là tout d'un coup tant que je me suis occupée d'elle d'une certaine façon c'était encore j'étais structurée, mais une fois que après son décès j'ai eu une espèce de vide, un truc épouvantable, quoi, vraiment épouvantable.
Elle s'en est aperçue, votre fille ?
Certainement. Elle a trouvé que... Je me souviens, un jour, je pleurais et elle m'a dit « Oh là là, tous ces déballages, c'est pas la peine. » Vous voyez, c'est...
Oui, elle, je pense que c'est très dur. Elle a, bon, comme on peut l'être à cet âge-là aussi. Très tranchant, très cinglant, il n'y a pas de quartier. Mais comme si, au fond, elle vous découvrait fragile. Peut-être que vous étiez aussi un de ses piliers, même certainement. Et que là, c'est comme si un peu tout s'effondrait autour d'elle, vous ne pensez pas ? Y compris vous. Et que face à ça, parfois, on réagit, l'angoisse peut rendre agressif. Malheureusement, enfin, vous voyez ?
On se réagit. Et ce qui m'inquiète, vous avez raison, hein, je suis d'accord avec vous. Pour vous dire, l'été dernier, elle est venue passer 3 jours de vacances avec son frère et moi.
Oui.
On a passé notre temps à pleurer. Et à un moment, elle m'a dit très durement, il n'y a rien qui va dans ta vie, je ne serai pas ta bouée de sauvetage. Vous voyez, c'est... Et elle se défend.
Oui, elle se défend beaucoup.
Puis contre des choses. Enfin, par exemple, elle m'a dit, moi, j'ai l'intention d'aller faire des études à l'étranger. C'est pas parce que je te préviens, tu ne pourras pas me retenir. Alors que, enfin...
Oui, vous ne cherchez pas, enfin,
mais
vous ne lui
dites
pas.
Mais pas du tout, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, écoute, tu habites à 3 stations de métro, est-ce que tu m'as déjà vu essayer de m'immiscer chez toi Non, donc pourquoi je t'empêcherais de partir à l'étranger? Qu'est-ce que tu me racontes?
Mais ça montre son ambivalence à elle, au fond, vous voyez? Et une forme de, une certaine, presque une culpabilité. Vous ne lui dites pas, ne pars pas, mais c'est au fond, elle veut partir. Et en même temps, il y a une part d'elle qui a envie de rester, et comme si elle prenait les devants. Elle doit être très ambivalente.
Oui, j'imagine. Je ne sais pas, puisqu'on ne se parle pas. Donc, c'est très...
Vous vous dites quand même des choses. Il y a cet été que vous avez passé, où vous avez pleuré. Enfin, elle doit avoir... Elle a peut-être, elle est à un âge où elle doit se construire, s'émanciper. Vous voyez, elle projette de faire des études, peut-être à l'étranger, et où peut-être qu'elle est désarmée, démunie face à vous, et qu'elle sent déstabilisée, moins bien aussi. Et comme si elle a l'air de dire, écoute, je suis alors. Comme ils peuvent le dire à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, on est souvent, on est tranchant comme une lame, vous voyez, il y a pas, c'est après qu'on met de l'eau dans son vin, la vie passe par là. Mais à cet âge-là, c'est en gros, moi je suis pas ta bouée, te raccroche pas à moi. Mais ce qui veut dire que, au fond, elle s'inquiète peut-être pour vous.
Oui.
Derrière ça, derrière ces paroles dures.
Mais alors moi, j'étais pas du tout habituée à ça parce que donc mon fils qui a 5 ans de plus qu'elle n'a jamais, enfin vous voyez, ça s'est jamais passé de cette façon-là avec lui. On a toujours eu une communication très fluide.
C'est un garçon.
Alors, vous me direz, c'est un garçon. Voilà, c'est ça. Il a été beaucoup plus dur avec son père. Avec qui, comme vous disiez, pas de quartier. Mais elle. C'est l'explosion en plein ciel, quoi. Je m'attendais pas.
Oui, elle vous ménage pas, mais Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a dû, à cette période-là, beaucoup la bousculer, enfin plus que, vous voyez, oui, tous ces liens. Mmh. Ce que vous avez vécu, ce sentiment de solitude, et de fait, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Il y a eu la perte de votre mère, qui était un pilier, mais il y a votre couple aussi, finalement.
Oui, d'ailleurs, on a divorcé.
Ben oui. Cette immense déception de vous trouver face à un étranger qui, au fond, il supportait pas que vous ne vous occupiez pas de lui, quoi. Enfin, vous voyez, face. Et pour votre fille, au fond, il y a la famille qui a un peu explosé. Et aussi la maman qu'elle avait, l'image qu'elle avait de vous. C'est comme si elle se retrouvait plus non plus dans cette solidité. Alors que, en fait, c'est normal d'être ébranlé, ça va revenir. Je pense que ça reviendra de votre... Ça va s'apaiser avec le temps, je pense. Là, il y a quelque chose qui est à vif. Et que finalement, le fait de respecter...
Je perds espoir. J'avoue que je perds espoir. Parce que maintenant, 5 ans, quand même, c'est long. Hein.
C'est long, mais elle n'a que 22 ans.
Oui, vous avez raison, oui.
Elle n'a que 22 ans et déjà, vous voyez, elle peut quand même dire des choses, même si ce sont des choses... Elle peut quand même... elle n'est pas dans une rupture de lien. Elle peut vous dire... Il y a quelque chose un peu de chez elle, aussi peut-être d'un sentiment de solitude, d'une déception, peut-être de s'être sentie lâchée. Elle a dû être très ambivalente. C'est en gros, moi je pars un peu, je m'éloigne de toute cette souffrance... Mais elle a aussi pu se sentir seule, certainement.
Ben elle me dit des trucs bizarres. Je ne sais pas trop comment comprendre. Par exemple, elle me dit... C'est du texto. Hein. C'est quand même une ado encore, mine de rien, dans sa manière de communiquer.
Mais oui, elle a 22 ans.
Alors elle m'écrit... je n'éprouve ni le besoin, ni l'envie de te voir. Si je le faisais, ce serait par culpabilité ou par pitié. Et tu n'en as pas besoin. Donc... Enfin, d'abord, c'est
la culpabilité
dur.
Est là. Oui, c'est dur. Ben, mais la culpabilité est là. Comme si finalement, c'est comme les vacances. Enfin, le séjour à l'étranger.
Oui.
Comme si elle a envie. Puis, peut-être que ma mère, je vais la laisser toute seule. Enfin, vous voyez, elle est.
Oui.
Est-ce que, au fond, comment allez-vous, vous, aujourd'hui, après toutes ces. Parce que vous me dites, cette solitude, ces liens, votre couple, vous avez divorcé, le lien avec votre fille, vous avez perdu votre mère. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui ?
Ça dépend des jours.
Ça dépend des jours.
Oui, oui. Bah,
maintenant, perdre du boulot aussi, est-ce que.
Ah, ben, le boulot, alors. Donc,
tout a cédé, là.
Oui, tout a cédé. Ouais, c'est exactement ça. Tout a cédé. Donc, le boulot, je suis partie. Il se trouve que 6 mois après, j'en ai retrouvé.
Vous avez des ressources. Hein.
Oui, j'étais partie. Je m'étais dit, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Donc, j'étais partie passer un peu de temps en Angleterre parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne me fera pas de mal de travailler mon anglais. Moi, je travaille dans un milieu professionnel où il est utile. Et il se trouve que juste avant de partir en Angleterre, j'ai été embauchée. Donc, je suis partie en Angleterre et après, j'ai commencé ce nouveau boulot. Bon, après, la vie a fait que 2 ans plus tard, mon patron a été débarqué et donc, on m'a débarqué dans la foulée.
Ah oui,
bon, à l'erreur. donc, ça fait beaucoup de déconstruction les unes derrière les autres, quand même.
Oui,
hein.
Oui.
Voilà. Mais j'ai rebondi parce que à côté de ça, justement, avec l'anglais, j'ai pu faire autre chose, mais en freelance, même si ça n'est pas régulier. Et je me suis remise de la mort de ma mère. Ça a été un peu long. Mais je m'en suis remise. J'ai été très dépitée du point de vue conjugal, disons. Très dépitée. Dépitée, je ne sais pas ce que c'est que ce lapsus, mais très dépitée, en tout cas.
On parle de politique beaucoup en ce moment, on va mettre ça sur ce compte-là.
Voilà, bon, pas dépitée, mais très dépitée.
Oui, oui.
Je
comprends.
Je m'intéresse pas beaucoup aux hommes, je dois dire, depuis. Alors, je fais des tas de choses. Je fais des choses. Je peux pas dire que je reste à tourner en rond dans mon appartement, mais j'ai pas beaucoup de plaisir à les faire. Voilà.
Oui, quand même.
Je suis pas légère, quoi. Oui, j'ai du mal à trouver le déclic où tout d'un coup on a l'impression qu'on pose son enclume et que.
Est-ce que vous vous êtes fait un peu accompagner?
Ah oui,
pour retrouver un peu de cet élan.
Depuis longtemps.
C'est peut-être ça que votre fille fuit un peu. C'est un bien grand mot, mais vous voyez, dont elle s'écarte. Quand elle parle de culpabilité, de pitié, elle n'y va pas par quatre chemins. Hein. Elle est dure. Mais comme si, au fond, c'est maman, reprends-toi. Vous voyez, comme s'il y avait eu. Il y a un peu de la perte et de l'abandon qui rôde, là, je trouve. Et c'est ce que dit Joseph. D'ailleurs, c'est intéressant, un auditeur qui dit: vous voyant si triste à la mort de votre mère, si démunie, je conçois que votre fille n'ait pas envie inconsciemment de se retrouver à votre place, de vous perdre. Il y a quelque chose autour de ça.
Peut-être.
Il y a quelque chose autour de ça qui doit faire angoisser, comme s'il y a un éloignement et de. Comme si. Elle aussi a été impactée, déstabilisée. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous étiez redevenue davantage fille que mère.
Et c'est
énorme ce que vous avez traversé. Parce que, bon, vous perdez votre mère, vous l'avez accompagnée, mais c'est des moments émotionnellement très durs, très forts. Mais vous perdez, vous parlez de votre mère qui était votre pilier, mais vous perdez votre mari. Votre mari qui vous déçoit au-delà de l'inimaginable. Enfin, c'est vous perdez votre travail.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est
on a deux fois.
Que, mais oui, les digues sautent. Il faut que vous soyez quand même solide hein, intérieurement. Mais comme vous dites, vous avez pour le moment perdu en légèreté, ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que il y a une crise très profonde là qui vous traverse aussi autour du lien, autour de l'attachement, de la perte. On ne s'en remet pas comme ça, mais ça peut aussi donner. Vous pouvez y puiser une force et retrouver finalement cette légèreté. C'est pas tant la légèreté, c'est le goût de la vie, c'est-à-dire retrouver l'importance, au fond, du lien et de la vie, et notamment du lien à votre fille. Mais peut-être qu'actuellement, il y a eu trop de souffrances d'un coup, trop de choses qui se sont disloquées, et que forcément, ça vous en avez souffert, mais que votre fille aussi, elle en a souffert. Et elle réagit par l'agressivité, par la mise à distance.
Oui, c'est vrai. Et puis, elle nie sa propre... Vous voyez, par exemple, il se trouve qu'elle a attrapé la Covid au tout début.
Ah oui, oui.
Et alors là, elle a rappliqué. elle est venue se réfugier parce qu'elle n'était pas tranquille. Et je lui ai encouragée, de toute façon. Alors, bon, on a eu des relations assez distantes pendant les 3 semaines qu'elle a passées ici.
Oui.
Mais elle a dit un certain nombre de choses, mais elle m'inquiète parce que à propos de la mère de la mort de sa grand-mère, c'est comme si elle mettait une carapace.
Elle se protège.
Oui, elle me dit mais moi je suis pas comme mon frère, en l'occurrence mon fils qui lui ne cache pas du tout ses émotions. Oui. C'est vraiment un garçon qui cache pas ses émotions.
Mais parce qu'elle se protège, votre fille, elle a peut-être peur de s'effondrer.
Mais alors voilà ce qui m'inquiète pour elle. C'est que je me dis, qu'est-ce qui va se passer le jour où elle va laisser toutes ses émotions survivre ?
Pas forcément. Je pense qu'elle a plus été touchée par, même si elle aimait beaucoup sa grand-mère, ça reste, c'est quand même sa grand-mère, elle est un personnage un peu plus de second plan, mais par la chute de votre couple et aussi vous, votre propre émotion à ce moment-là qui a fait que vous étiez débordée. Et je pense qu'il faut pas la lâcher malgré tout, en respectant cette distance, mais lui dire, vous pouvez lui dire que vous vous inquiétez un peu pour elle d'ailleurs, puisqu'elle vous ramène toujours à vous. Dire non, je m'inquiète un peu. D'ailleurs, Brigitte dit, sa fille vous dit, je pars, mais retiens-moi. Bah oui, il y a beaucoup de ça. Et quand elle a été mal, vers qui elle s'est tournée? Vers vous. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Moi, je pense que ça va s'arranger avec le temps, mais ne la lâchez pas. Malgré tout. Je vous embrasse. On doit se quitter parce que c'est la fin de l'émission, Hélène. Mais prenez soin de vous aussi.
Écoutez.
Au revoir, Hélène.